écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Robert est toujours sans connaissance. Alors pour clore cette affaire, il y a des expertises des médecins qui disent qu'il y a des fortes chances qu'il ait vraiment perdu la mémoire. Il décide de demander un internement. Ça a été accepté parce qu'il est marqué dans le dossier médical que Cyril a des pulsions incontrôlables de colère. Donc, un matin, on le mène chez le juge, au palais de justice. Le juge est celui qui l'a déjà vu, lui dit. Vous êtes libéré de la justice, mais vous êtes envoyé pour des soins dans un établissement médical. Cyril lui dit en colère, « Je ne veux pas y aller. » Le juge lui dit, « Mais c'est pour raison de santé qu'on vous mène là-bas, pour que vous puissiez retrouver la mémoire. Ce n'est rien, vous verrez, vous serez très bien traité. » Cyril furieux lui dit, « J'ai perdu la mémoire, d'accord, mais cela ne m'empêche pas de vivre normalement. La preuve, j'avais un travail, je me débrouillais très bien tout seul. » Le juge lui dit, « Peut-être bien, mais vous êtes une personne qui a perdu la mémoire. Il faut vous suivre de très près. Et puis, nous sommes rendus compte que vous aviez des pulsions, disons, de colère incontrôlables. » Cyril lui dit, « Bien sûr que j'étais en colère, étant donné que j'étais enfermé au milieu de gens violents qui voulaient me faire du mal. C'est normal, si vous étiez enfermé au milieu de personnes violentes qui voulaient vous violer, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez aussi en colère, vous prendriez des crises. » Le juge lui dit, « Je ne sais pas, moi. Tout ce que je sais, c'est marqué dans votre dossier et que vous avez des pulsions incontrôlables de colère. Mais on ne m'a pas dit pourquoi et le comment. Alors je décide, d'après votre dossier, c'est de vous mettre dans un établissement médicalisé pour vous soigner. Pour vous soigner, pour que vous puissiez retrouver votre mémoire. Ce n'est rien. On ne va pas vous traiter comme un fou, ni un grand violent. Vous allez peu rien vous dire de plus. Mais vous allez aller dans un bon établissement. Cyril sort du bureau et une fois dehors, il est mené dans une ambulance. On va le mener dans un établissement médical qui se trouve en dehors de la ville, en pleine campagne déserte. L'établissement est un vieil édifice qui ressemble plutôt à une prison. C'est un peu délabré, avec des barreaux aux fenêtres. Il est entouré d'un mur et au-dessus des grillages électrique. La maison se trouve au fond d'un parc boisé. La sécheresse a encore plus lugubre les lieux parce qu'il n'y a aucune verdure et que les arbres n'ont plus de feuilles car ils sont mourants. Il y a dans le parc plusieurs malades qui se promènent comme des somnambules, le visage hébété, les cheveux défaits, mal habillés et pour la plupart très maigres. Certains sont assis sur des bancs de pierre et regardent droit devant eux. Les gardiens, en blouse blanche, sont forts et vont et viennent en faisant les 100 pas dans le parc. Une fois que l'ambulance est arrêtée devant l'entrée de l'établissement, on sort Cyril qui a des menottes et devant l'établissement, il y a 3 hommes en blouse blanche, costaud, fort, qui viennent à lui. Et le font entrer dans l'établissement. C'est sombre, des carreaux noirs et blancs au sol, une tapisserie beige défraîchie. Des escaliers avec des rampes en métal usé. Au rez-de-chaussée, il y a plusieurs portes qui mènent à la comptabilité, au lieu de repos pour les infirmières et infirmiers, à la direction, etc. On mène le pauvre Cyril au bureau du directeur. Un garde, parce qu'il ressemble plus à un gardien qu'à un infirmier, sonne à une porte. La porte s'ouvre automatiquement et il rentre avec Cyril dans le bureau. Le bureau du directeur est une grande pièce meublée, 1950, avec très peu de lumière. Le directeur est assis à son bureau. C'est un homme de taille moyenne, dans les 60 ans, cheveux gris, tête osseuse, lunettes métal, regard dur. Porte un costume marine avec chemise blanche et nœud papillon. Directeur dit à Cyril : Vous êtes le dénommé Cyril Rambert. En tout cas, c'est ce que vous dites, parce que d'après votre dossier, vous avez perdu la mémoire. Je suis le directeur de cet établissement. Vous êtes ici pour des soins, pour essayer de retrouver la mémoire. En plus, il est dit que sur votre dossier que vous êtes très violent. Donc, nous allons étudier tout ceci. Avez-vous des questions à me demander ? Cyril lui dit, je ne suis pas fou, j'ai simplement perdu la mémoire. Mais ça ne m'empêche pas de vivre normalement. La preuve, c'est d'être pris. Je travaillais comme tout le monde. Et je sais me débrouiller dans la vie comme il faut. Si j'étais violent, c'est parce que, comme je l'ai dit au juge, j'étais entouré à la prison de personnes très violentes qui voulaient chercher à me faire du mal et même à me violer. Si vous étiez entouré de ce genre de personnes, vous aussi, vous auriez été violent. Quant à moi, je pense que je n'ai pas besoin de soins et que je ne devrais pas être là. Je suis ici parce que on ne veut pas me libérer. Mais je n'ai rien à me reprocher, le directeur lui dit. C'est le juge qui vous a mis ici. Donc, vous devez rester ici. Et puis, moi, je ne regarde que vos dossiers. Et je vois d'après ce que c'est marqué et ce que vous me dites, que vous êtes violent et réticent. Mais on va arranger ceci. Vous allez mener ce patient à la chambre 610. Allez ! Et on sort Cyril du bureau qui est furieux. On le fait monter à l'étage. Au troisième étage, la maison en compte quatre. Les étages sont des chambres des patients. Troisième étage, on le fait suivre un long couloir sombre. Il n'y a quasiment pas de lumière dans ce couloir. Il y a tout le long des portes fermées, blindées, avec un rond vitré à la porte pour voir l'intérieur de la pièce. Un gars ouvre avec une grosse clé une porte. Il fait entrer Cyril. C'est une minuscule cellule. Il y a une petite fenêtre avec des barreaux. Au plafond, une ampoule nue. Les murs sont défraîchis. Ils ont été peints en blanc. Et ont plein de graffitis. Le sol, c'est des carreaux qui ont été blancs. Contre le mur, fissé au mur et au sol, un lit a une place en fer, avec au-dessus des draps, une couverture, il n'y a pas d'oreiller. Il y a aussi une chaise, petite table en bois, un lavabo, rien de plus. Un des gardiens lui dit, on viendra vous chercher.
pour le repas. Et les gardiens sortent. Cyril soupire. Il est encore prisonnier. Et cette fois-ci, il sera peut-être un peu mieux parce qu'il est seul dans une cellule. Il regarde tout ça et va s'asseoir sur son lit. Le temps passe. Puis, au bout d'un moment, qui lui a paru long, mais il ne sait pas, il ne sait plus. Il a perdu le sens du temps. La porte est ouverte. Ça l'a fait sursauter. Un vieillard lui dit, venez avec moi. Il est l'heure de prendre le repas. Cyril sort de sa cellule. Parce que c'est plus une cellule qu'une chambre.
Tournez-vous contre le mur. Tournez-vous contre le mur. Allez, allez, allez.
Cyril sort de sa chambre, ou plutôt de sa cellule. Et là, il voit dans le couloir, rangés les uns derrière les autres, des malades. Ils ont l'air hagards, maigres, les cheveux défaits et pas très propres. Ils semblent être dans le brouillard. Ils ressemblent à des bagnards. On pousse Cyril pour qu'il puisse suivre les autres. On descend les escaliers et au rez-de-chaussée, on mène les malades à la salle à manger, qui est plutôt une cantine. C'est très grand, il y a des tables en bois très longues avec des bancs. On a déjà mis sur les tables des couverts en aluminium, pas de couteau ni de fourchette, juste des cuillers. On place Cyril au bout d'une table et des personnes passent entre les tables avec un chariot pour distribuer la soupe qui est dans une grande gamelle. Une fois que l'on est servi Cyril, Cyril commence à manger. C'est de l'eau chaude avec quelques morceaux de poireaux. À côté de lui et en face de lui, ce sont des malades qui mangent en faisant beaucoup de bruit avec leur bouche. Ça dégouline de partout. Ça dégoûte Cyril, surtout que certains ont leur morve qui tombe dans leur soupe. Il entend à d'autres tables des cris, des assiettes que l'on jette à terre et des bagarres. Les gardiens vont et font sortir en leur donnant des coups de matraque et aussi pour les personnes qui crient. Les gardiens leur donnent des coups pour qu'ils se calment. Après la soupe, il y a eu un plat de pommes de terre, tout aussi mauvais que la soupe, et pour le dessert, un yaourt qui a surtout servi à une bagarre de yaourt. Les malades se lancent des yaourts à la figure en les mettant dans leur cuiller pour les lancer à leurs voisins. Cyril en a reçu lui aussi à la figure. Il se dit qu'il est au milieu de dingue. Une fois que le repas était fini, on a ramené Cyril et les autres à leur chambre. Dans sa chambre, Cyril, plein de yaourt, est allé se nettoyer le visage, comme il n'a rien, il a dû se passer tout simplement de l'eau sur ses mains pour se nettoyer le visage. Puis ne sachant que faire, Il s'assoit sur le rebord du lit, comme tout à l'heure. Tout d'un coup, la lumière s'éteint. Il se dit que c'est l'heure d'aller se coucher. Alors, dans le noir, il fait son lit. Et se couche. Bien entendu, il n'arrive pas à dormir dans un lieu qu'il ne connaît pas, avec les bruits qu'il ne connaît pas. Et puis, il n'a pas d'oreiller. Il apprendra plus tard que c'est à 21h que l'on ferme les lumières et on les remet à 6h du matin. Puis, la lumière s'éclaire, c'est-à-dire à 6h du matin, mais Cyril ne le sait pas qu'il est 6h du matin. Les gardes font sortir les patients. Cyril aussi, pour les mener au réfectoire prendre leur petit déjeuner. Cyril voit que c'est la même chose, que certains malades sont très violents, crient, se battent avec les autres, jettent à terre tout ce qu'ils ont sous la main. Ils se battent aussi avec les gardiens. Cyril a très peur. Il se dit qu'il risque lui aussi de se faire attaquer. Le directeur, l'après-midi, va le voir dans sa cellule. Il s'est assis sur une chaise. Cyril, sur le rebord de son lit. Le directeur lui demande « Alors, comment vous sentez-vous » Cyril lui dit « Je suis prisonnier et puis je suis entouré de fous qui sont violents. » Le directeur lui dit « On ne dit pas fous, ce sont des malades. Et puis, ils ne sont pas si violents que ça. Vous verrez, vous vous habituerez. Je vois, c'est que vous êtes encore violent. Je vais vous faire passer une visite médicale. » Cyril lui dit, « Je ne suis pas malade. » Le directeur lui dit, « Je suis le responsable de cet établissement et je veux que la visite médicale se fasse. Elle sera faite. Et puis, vous êtes dans un établissement de soins. On doit se faire soigner médicalement. C'est normal. Non ?» Cyril ne dit rien. Le directeur lui dit, « Bon, tout à l'heure, nous allons vous mener au médecin. Il va vous examiner pour vous donner des soins appropriés à votre cas. » Et le directeur est sorti de la cellule. Cyril se dit qu'il est bien prisonnier et en plus dans un asile de fous. Donc dans l'après-midi, on amène Cyril au rez-de-chaussée pour qu'il puisse voir le médecin responsable de l'établissement. Le médecin est un homme fort dans les 50 ans, chauve, avec les yeux qui font peur. Il porte une blouse blanche. Son bureau ressemble à un cabinet médical quelconque, peint en blanc, avec des meubles en métal. Cyril entre dans le cabinet du médecin. Le médecin lui dit « Asseyez-vous. Je vais vous examiner de la tête aux pieds pour voir si tout va bien. Ensuite, nous parlerons un peu. » Et pendant une demi-heure, le médecin examine Cyril de la tête aux pieds, lui fait même faire des radios, prendre la tension, etc. Puis, il fait passer des tests psychologiques et lui dit « Bien, bien, ce n'est pas catastrophique, ça peut aller, vu les événements et l'ambiance que nous vivons. Mais du point de vue psychologique, je vois que c'est que vous êtes nerveux, tendu et que vous avez besoin d'un peu de calmant. Ensuite, cette histoire de perte de mémoire, il va falloir faire une fois par semaine des séances de rayons et de discussions. Bien, je vais vous donner des médicaments pour vous calmer, des médicaments pour la mémoire et des fortifiants. » Voilà. On fait prendre à Cyril tous les matins. Et il doit bien les prendre, parce qu'il doit les prendre devant un garde. Des médicaments pour les nerfs, la mémoire et les fortifiants. Les médicaments pour les nerfs l'abrutissent complètement. Il se sent là et très souvent a envie de dormir. On lui a prescrit ces médicaments pour qu'il puisse rester tranquille. Une fois par semaine, il aura une visite médicale. Il entend... les malades crier, courir dans les couloirs, en sortant de sa cellule pour aller au réfectoire et voir même certains faire leurs besoins naturels dans le couloir comme ça. À la cantine, c'est toujours la même chose. Les malades ont l'air endormis, idiots, violents. Ils mangent comme des bêtes, ça dégoûte Cyril. La nourriture est infecte. Elle est servie dans des couverts en métal. Un des gardes, grand, fort, dans les 30 ans, chaque fois qu'il voit Cyril pour le mener quelque part, a une façon étrange de le regarder. C'est comme s'il le reluquait. Ça gêne Cyril. Une nuit, Cyril dort profondément. Il est réveillé par la porte de sa cellule qui vient de s'ouvrir et se refermer. Il se soulève et demande « Qu'est-ce que c'est ?» On ne lui dit rien, mais on s'approche de lui. Cyril demande « Qu'est-ce que vous voulez ?» Une voix lui dit « Rien !» Et surtout, laisse-toi faire, ça se passera très bien. Cyril a reconnu la voix du garde. Il est surpris. Le garde se penche sur lui et se plaque contre lui. Cyril essaie de se défendre, mais ne peut pas, parce que le garde est plus fort que lui. Il sent son corps gros, fort contre lui, ça le dégoûte. Il veut essayer de crier, mais l'autre très vite lui met la main sur la bouche. Il lui dit, laisse-toi faire. « Ce sera très bien. » Cyril dégoûté, sent contre lui ce corps plaqué, un corps fort. Il sent aussi son odeur, ça le dégoûte vraiment. Il essaie de gigoter, mais ne peut pas. De geste brusque, il est retourné, couché sur le ventre. Oh ! Puis l'autre, qui se dégage légèrement pour caresser de ses mains, sous le t-shirt, le corps de Cyril. Cyril sent ses mains qui le touchent de partout et a envie de vomir. Tout d'un coup, il sent que l'autre introduit dans son anus son sexe. Ah, c'est dégueulasse! Il a envie de hurler. Ça lui fait très mal. De ses deux mains, l'autre lui caresse de partout. Et lui, ses intimités en même temps. Et sur ses intimités en même temps. Cyril est pris par l'anus et est prisonnier de ses mains, ne peut bouger, il pleure de rage. Puis au bout d'un moment, l'autre se dégage et dit à Cyril, « Si tu cherches à me dénoncer, je te tuerai. D'ailleurs, c'est la coutume ici. » Et il sort de la cellule. Cyril, courbaturé de partout, mal de partout, se retourne, sent quelque chose de froid sur ses cuisses et voit que c'est du sperme. Vite dégoûté, il va au lavabo se nettoyer. Il pleure de rage. Il a très peur. Peur des gardiens, des malades qui ont de drôles de tête, qu'il rencontre dans le couloir au réfectoire. Les jours passent, il dépérit, ne peut rien faire. Le garde vient de temps en temps le voir le soir. Il ne peut se défendre, le dénoncer. Dans le réfectoire, au cours d'une bagarre générale, Cyril voit des malades, l'air menaçant, sauter sur lui, le faire tomber de son banc à terre et veulent le violer. Un le tient par les mains, un autre les jambes, un troisième commence à le déshabiller. Cyril hurle, zigote. Mais ils sont trois contre lui, les gardiens pour arrêter tout ça. Cyril, à cause des médicaments et des difficultés à réfléchir, ne peut se défendre. Il aimerait pouvoir hurler, crier. Il ne peut pas, sans que les autres en profitent. Les journées sont longues, longues. Au bout de quelque temps, le médecin directeur voit que Cyril, à cause des médicaments, est pour ainsi dire comme un légume. Il lui permet, comme beaucoup de patients, d'aller se promener l'après-midi dans le parc. Il marche à petits pas, l'air hagard, se fatigue très vite, rencontre dans le parc des malades qui, comme lui, ont l'air complètement abrutis. Il s'en méfie parce qu'il se dit que quelquefois ils ont des crises terribles. Il s'en est aperçu souvent et les évite. Il a toujours sa visite médicale, c'est simplement pour voir s'il reste toujours aussi abruti. Les repas lui sont vraiment un véritable supplice à cause des malades. Une fois par semaine, on lui fait faire des exercices et on lui pose des questions pour la mémoire. Mais la mémoire ne lui revient pas. Il se dit que c'est normal étant donné qu'on l'abrutit. Après quelque temps, le garde ne vient plus le voir. Cyril se dit qu'il a trouvé certainement quelqu'un d'autre. Maintenant, il va pouvoir dormir tranquille. Très souvent dans le couloir à la sortie, pour aller à la cantine, il y a souvent des bagarres. Une fois, Cyril est pris à partie avec un homme qui est grand, fort, l'air bête, cheveux sombres. Il lui dit « T'es un mouchoir, toi !» Cyril demande « Quoi ?» L'autre lui dit « T'es un mouchard, salaud !» Il prend Cyril au col et lui dit « Je vais te donner une correction !» Les autres se mettent à crier « Oui, 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 oui !» Partout, on fonce sur Cyril qui essaye de se protéger des coups. Se protège de son visage, malheureusement tombe à terre. Les autres lui donnent des coups de pied et poing. Il ne peut pas se relever, il ne sait comment faire. Les autres crient « Mouchard, mouchard, oui, oui !» Puis tout d'un coup, des gardes qui arrivent et retirent les malades qui sont sur Cyril. Puis on relève Cyril et on le mène vers le médecin pour voir s'il n'a rien. Cyril n'est pas blessé, tout va bien. Il a peur, fait des cauchemars terribles, ne sait plus où il est. Il décide d'essayer de se sauver. Au cours d'une cette promenade l'après-midi, il se place derrière une haie dans le parc et attend les autres. Rentre. Puis va vers le mur et voit que le mur est trop haut. En plus, il y a des grillages électriques. Très vite, les surveillants qui le recherchaient le trouvent et le ramènent dans sa cellule. Désormais, il lui est interdit de sortir. Il est mené chez le médecin qui lui demande « Pourquoi vouliez-vous vous échapper ?» Cyril lui dit « Je suis prisonnier ici. » Le médecin lui dit « Mais non, c'est une maison de santé ici. » « Oui, c'est une maison de santé ici. » La sécheresse est toujours là. Même dans les prisons, établissements de soins, on en souffre. Jusqu'à présent, la peste a épargné l'établissement. Mais un jour, il y a eu un cas et cette personne en est morte. Le directeur se demande ce qu'il faut faire. « Ce sont des fous dangereux. On ne peut pas les mener à l'hôpital. » Alors, pourquoi ne pas tous les éliminer en disant qu'ils ont la peste? Comme ça, on s'en débarrassera. Le directeur convoque dans son bureau le personnel de l'établissement, même les médecins. Il leur dit la chose. Bien, c'est réglé. Le médecin, celui qui voit Cyril, dit « Heureusement que M. Rambert est absent. » Le directeur lui dit « Oui, il faut en profiter. » Avec des gens comme nous, la peste sera vite réglée. On brûle les villes avec les personnes. Un infirmier demande, et nous? Le directeur lui dit, nous sortirons de la ville. La racaille et les bons à rien ne pourront pas sortir des villes. D'ailleurs, nous n'avons plus besoin de manœuvres ici. Tout se fait en dehors de l'Europe, où le travail est informatisé, ce qui fait que nous n'avons plus besoin des ouvriers. Donc, il faut éliminer sous prétexte de la peste pour le faire. Bon, parlons de la façon dont nous allons procéder. Un des gardes demande, qu'allons-nous devenir lorsque l'établissement sera fermé? Nous serons au chômage. Le directeur lui dit, pas du tout. Il y aura toujours des indésirables qui remplaceront les autres. Il y aura des gens que la société ne voudra pas. Il y aura toujours des personnes qui demanderont à ce que soient mis en maison pour les éliminer, pour des raisons économiques, d'héritage, etc. Heureusement que certains responsables d'établissements sont capables de prendre des décisions radicales. Cela remplit et déremplit les établissements, ce qui fait faire des économies pour la société. Ça la débarrasse aussi des indésirables. Bon, j'ai bien réfléchi. Nous allons dire que la peste est dans nos murs, que personne ne doit donner cette information à tous les patients. Il faut faire passer une visite médicale à tout le monde et ceux qui ont la peste ne reviendront pas. Quant à ceux qui ont la peste, vous voyez ce que je veux dire, quant à ceux qui l'ont, on les menera à l'hôpital dans un fourgon blindé. On fera ça par étage, il commencera par le haut. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Ceux qui ont la peste, ceux qu'on veut qui aient la peste, vous voyez ce que je veux dire. Hein? En plus de ceux qui l'ont, il y a peut-être deux ou trois qui ont la peste, mais les autres, disons qu'ils ont de la peste. Alors, on les mènera à l'hôpital dans un fourgon blindé. On fera ça par étage, en commençant par le haut. Surtout ne pas effrayer les patients et leur dire que c'est simplement une visite de routine. Parce qu'il y a eu la peste dans l'établissement. De toute façon, comme ils sont à moitié abrutis, ne comprendront pas. Nous leur donnerons des tranquillisants. Qu'importe la dose. Commençons demain matin, nous ferons une étage par jour. Le médecin lui dit, il serait peut-être plus simple, au lieu de les mener à l'hôpital, de les mener directement à l'incinérateur. Le directeur dit, oui, vous avez raison. Ça fera des économies à la sécurité sociale. Et la chose se fait. On fait passer une visite rapide aux malades, étage par étage. Une visite symbolique. Mais cette visite est surtout pour leur faire une piqûre pour les rendre encore plus abrutis. Puis, on les mène dans des cars blindés pour les mener à l'incinérateur. Là, ils passent dans une pièce d'attente à l'incinérateur. Mais le personnel qui travaille à l'incinérateur regarde. Vous nous amenez des gens qui ne sont pas morts. Un garde leur dit, moi j'ai reçu l'ordre. Et c'est par sécurité d'hygiène. Vous comprenez, il y a la peste dans notre établissement. Et ces gens sont débiles. Nous ne pouvons pas les soigner, donc il vaut mieux les éliminer pour éviter qu'ils souffrent. Alors, on amène un des malades, on le couche sur une planche, on le sangle, et la planche est poussée dans le four. Et puis, pour éviter qu'ils réagissent, on leur dit que c'est pour passer un scanner. Et puis, ils n'ont pas le temps de réagir. Ils sont poussés directement dans le four. Pendant ce temps, les autres attendent dans la pièce à côté. Malheureusement, la chose s'est ébruitée parce qu'un garde a dit à un autre garde, ça va être ton étage, ne fais pas de soucis, ils se laissent mener au four comme des agneaux. Celle-ci a été entendue par des malades qui l'ont dit à d'autres malades, etc. Et la peur s'empare de l'établissement. Certains se mettent à crier, ils ne veulent pas mourir à la cantine. Les malades se révoltent. Ils ne veulent pas aller dans le four et se défendront pour ne pas y aller. D'autres crient, hurlent et se mettent à s'attaquer aux gardes en leur jetant des projectiles. Les gardes, effrayés par cette horde sauvage, brute, forte, décide de tirer dans la foule. Le bruit fait venir les autres gardes. Mais malheureusement, les malades sont plus nombreux. Et très vite, ils sont pris, jetés à terre. On leur donne des coups de pied. Plus les malades sont excités, et plus ils s'excitent. D'autres malades, à plusieurs, se mettent à violer un garde. Le malade se met à agresser un garde qui est sur lui. Un autre arrive, mord le nez et le lui coupe avec ses dents. Certains malades déshabillent les gardes avec leurs dents, les déchiquent. Il y a du sang partout, ça court dans tous les sens. On voit des malades avec dans la bouche des morceaux de viande ensanglantés. Le sang gicle, ce qui excite les gens et les rend encore plus cannibales. Cyril s'est mis sous la table et attend, il a peur. Certains malades ont pris des clés, des gardes, et vont ouvrir les portes des malades qui sont très dangereux. On envahit l'établissement, on casse tout, on va dans les cuisines, on renverse. Tout en se remplissant la bouche d'aliments. Les cuisiniers ne peuvent rien faire. Ils sont comme paralysés. Ils ont peur. Et puis très vite, on leur fait la même chose que pour les gardes. On défonce le bureau du directeur et on le jette à la fenêtre. Défenestré. Il est mort en tombant. On tue les gardes avec des couteaux que l'on a récupérés dans la cuisine. Les gardes qui n'ont pas été violés ou mangés sont tués à coups de couteau. Certains sont même violés avant ou après. C'est l'horreur, un véritable cauchemar. Cyril, sous sa table, a très peur. Il a très peur. Et puis tout à coup, lui aussi est pris par l'orage et se souvient des humiliations qu'on lui a faites. Participe à tout avec rage. Lui aussi a pris un couteau qu'il a trouvé à terre, mais ne viole pas, ni ne fait du cannibalisme. À force de tout jeter à terre, ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu à des bonbonnes de gaz et d'air comprimé. Le feu prend une vitesse foudroyante et tout l'établissement prend feu. Les malades qui sont encore conscients se sauvent. Cyril aussi. Beaucoup qui malheureusement ont la tête dérangée ne s'en vont pas. Ils trouvent effrayés de s'en aller morts dans les flammes. Ceux qui se sauvent courent dans tous les sens. Dans le parc, quelques-uns qui ont les clés du portail, quelqu'un a les clés du portail, ouvre le portail. Cyril et certains sortent de l'établissement. Ils ont eu tout juste le temps de sortir de l'établissement. Une énorme explosion. Derrière eux. Thank you. Cyril, Vite et les autres courent dans la nuit, tout le monde s'est éparpillé dans la nature. Cyril, après avoir couru dans la nuit, sans savoir où il va, épuisé, s'endort dans un fossé. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet et Rebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.